No.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de ce Canu Info du jeudi 23 décembre 2021. Je suis Delphine et je suis toujours accompagnée de Laurent, vas-tu bien ?
Oui, très bien.
On s'excuse pour les deux semaines d'absence, hein, voilà, comme ça c'est la vie, rien à voir avec le Covid, nous vous rassurons, hein, si vous étiez inquiet et inquiète. Simplement le travail qui prend toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur nos plaisirs radiophoniques. Alors ce soir avec toi Laurent, nous irons du côté de Hong Kong, on ira au Japon, en Chine, et puis nous parlerons de chèvres et de catholiques. Tu m'expliqueras parce que tu m'as pas expliqué de quoi tu vas parler. Et nous parlerons d'anthropophosie.
D'anthroposophie.
Je vais y arriver ce soir. Je bafouille déjà. Dès le déroulé, nous parlerons d'autres choses pour terminer. Mais pour, avant de commencer cette partie internationale, je voudrais quand même citer les mots de M. Vladimir Poutine en ce jeudi 23 décembre 2021 qui a expliqué « J'ai une approche traditionnelle. Une femme est une femme. Un homme est un homme. J'espère que notre société a une protection morale interne dictée par nos confessions religieuses traditionnelles, car il veut lutter contre cet obscurantisme, je le cite. » Dans cette même interview, il a expliqué qu'en fait, si toutes les femmes transgenres, tous les hommes transgenres pouvaient faire ce qu'ils voulaient, on aurait un souci ensuite avec le sport. Imaginez tous ces anciens hommes, imagine-t-il, hein, devenus femmes, qui pourraient donc aller dans des compétitions féminines et qui battraient tous les records. Alors, M. Poutine a donc une vision du sport assez viriliste. Hein, on rappelle qu'il aime se mettre sur un cheval et galoper dans la plaine. Donc, je ne sais pas, on imagine qu'il imagine que c'est quoi le sport, le judo, la lutte. Parce que la lutte, ça, c'est viril en Russie. Le tennis, peut-être que là, d'un seul coup, il faudrait le corps, hein, mais M. Poutine a l'air d'oublier que malheureusement, il y a du sport aussi genré, hein, puisqu'on vous rappelle que les jeunes femmes qui montent sur un machin carré, à peine plus grand qu'un pied, et qui font des roulades à l'envers, sont souvent de corpulence assez fine et assez peu donc masculine dans sa représentation. Donc, Donc il a une vision très genrée, très sexuée de ce que peut être le sport.
Et... En fait, il parle même pas de sport, il parle de compétition, parce qu'on peut
oui,
faire...
Oui, bien sûr.
Le sport peut être mixte sans aucun problème si on enlève la compétition.
Tout à fait. En plus de ça, c'est un viriliste qui aime la compétition. Il aime se mettre dans des situations de combat dans lesquelles il est grand gagnant. Et puis, donc, il y a cette approche religieuse de cet obscurantisme qu'il va falloir lutter contre ceux et celles qui sont en train de, d'obtenir leur identité, quelle qu'elle soit, à travers le monde, et en particulier dans son Russie. On vous rappelle que la Russie est championne du monde dans cet obscurantisme, de notre côté en tout cas, c'est-à-dire empêcher aujourd'hui les LGBTQ de s'exprimer comme il et elle le souhaite, de vivre ses relations comme il et elle le souhaite, d'exister comme nous avons tous envie d'exister, comme nous avons envie de le faire de partout. La Russie a des lois extrêmement sévères, autoritaires et qui punit, voilà, accompagnée d'une église orthodoxe extrêmement répressive, elle aussi, qui sait aller saisir dans les familles les petits problèmes et d'accompagner la maltraitance, la discrimination et les agressions contre ceux et celles aujourd'hui qui résistent à ce virilisme ambiant.
Oui, alors c'est à moi de parler. Vous avez vu, on ne parle pas d'Omicron, on ne parle pas du Covid.
Tu l'as dit le mot, tu vas devoir courir à cloche-pied.
On laisse tomber ça, il n'y a pas de solution, les études ne sont pas fiables pour ce qu'on en sait maintenant. Donc plutôt que de parler de choses dont on n'est pas sûr, on va parler d'autre chose. Donc nous allons parler de la Chine répressive, parce que ça, c'est un truc dont on est sûr, c'est que la Chine est un État totalitaire. Le communisme chinois reste totalitaire. Donc aujourd'hui, c'était juste un acte symbolique mais représentatif de ce que fait la Chine à Hong Kong, puisqu'aujourd'hui ils ont démantelé, déboulonné, déplacé The Pillar of Shame, une œuvre orange commémorant le massacre de la place Tiananmen, je vous rappelle, le 4 juin 89, sur cette immense place, des étudiants en révolte se faisaient assassiner par l'État chinois. Alors, la décision concernant cette vieille statue a été prise avec des excuses. Donc, l'excuse, c'est qu'il y aurait un avis juridique externe qui aurait dit que la statue n'avait jamais eu d'aspect légal. Elle n'avait jamais eu d'autorisation. Bon, elle était là depuis plus de 20 ans, depuis un moment en tout cas. Donc voilà, il faut savoir qu'à Hong Kong, avant la reprise en main chinoise de cette année, c'était le seul endroit en Chine, puisqu'officiellement Hong Kong c'est quand même, malheureusement pour eux, en Chine, le seul endroit où la commémoration des événements de Tiananmen donc, était tolérée. Donc chaque année, les étudiants de cette université de Hong Kong, qui s'appelle HKU, nettoyaient la statue et puis allaient faire une soirée de veillée en mémoire aux disparus de ce massacre de la Chine communiste donc qui avait eu lieu il y a un peu plus de 20 ans. Donc voilà, alors officiellement elle a été déboulonnée, démontée, enlevée, mise à l'abri des regards. On s'est entreposée ailleurs, on n'en sait pas plus. En tout cas, les autorités ont utilisé une vieille loi coloniale, comme quoi, quand ça les arrange, on prend les vieilles lois britanniques autoritaires pour les utiliser à notre profit. C'est ce que fait la Chine, parce que voilà, pour cette fameuse absence d'autorisation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une petite réaction, déjà de la part de Jens Galschiot, qui est le Danois qui est à l'origine de la statue, qui a trouvé ça étrange, voire choquant, que l'État et l'université, parce que c'est l'université qui agit, s'en prennent à sa sculpture, puisque ça reste une propriété privée, cette sculpture. Il dit que si jamais il la détruise, il les poursuivra. Alors poursuivre un État communiste, je ne suis pas sûr que ça aille bien loin. Mais enfin, symboliquement, il le dit. Il a contacté des avocats pour voir ce qu'il pouvait faire, parce que lui, il dit, bon, il l'enlève, il voudrait la récupérer, ce serait bien de la mettre ailleurs, du coup, pour commémorer ce massacre des autorités communistes chinoises. Donc voilà, c'est symbolique, c'est pas grand-chose une statue, mais on sait que tout ce qu'il y a autour, les Hongkongais ne peuvent plus s'exprimer librement depuis la reprise en main qui a été très très forte cette année de la Chine communiste sur cet État qui était plutôt libéral dans le sens des mœurs. Donc voilà, c'est mal parti quand même. Ça se termine mal, en tout cas, cette année.
Ouais. Écoute, du côté de la Chine, hein, il se passe toujours beaucoup de problèmes autoritaires, voire un petit peu du côté de la dictature. Hein. Vous voyez, la Reporters sans frontières appelle les autorités marocaines à libérer Idrissi Haychan, c'est un journaliste d'origine ouïghour qui doit être extradé vers la Chine. Alors les autorités chinoises, qu'elles ont fait, elles ont été voir Interpol et puis elles ont fait en sorte, ces autorités chinoises, de lui mettre une notice rouge pour terrorisme sur la tronche. C'est un journaliste, Idrissi Haychan. Alors le truc, c'est qu'Interpol a levé cette notice rouge. Donc aujourd'hui, le Maroc devrait libérer cet homme que la Chine veut récupérer parce qu'il est ouïghour et parce qu'il dénonce des agissements des autorités chinoises contre les Ouïghours, et le Maroc ne réagit pas. Et là, donc, Reporters sans frontières, accompagné des Nations Unies, rappelle au gouvernement marocain qu'il y a des obligations aussi internationales et que cet homme, n'ayant plus de notice rouge sur le dos, doit pouvoir être libéré et surtout ne pas être extradé vers la Chine. Mais la Chine continue de toute façon à faire son petit bonhomme de chemin. Ça touche aussi le capitalisme, puisque Amazon, alors que vous savez que c'est pas une multinationale, c'est une autre. Amazon est en Chine, sur le marché chinois, depuis 2004, hein, avec un accord avec Joyo.com, c'est un vendeur de livres en ligne, ce qui a permis à Amazon de s'installer, hein, donc sur le territoire commercial chinois. Et Amazon fait sa petite vie. Donc on pourrait penser qu'Amazon fait sa petite vie comme ailleurs. Eh bien, pas exactement, parce que vous savez, s'il y a un truc qui permet à Amazon, et d'ailleurs à tous les sites, hein, aujourd'hui, de continuer à vendre, c'est les petits commentaires. Vous aimez certainement bien mettre dessous quand alors vous allez voir de la musique, quand vous voyagez, un hôtel, quand vous prenez l'avion, quand vous allez quelque part, au restaurant. Et puis, quand vous achetez des choses sur Amazon, vous aimez dire ah, franchement, c'est de la merde, il faut surtout pas l'acheter, ce machin. Ou purée, le restaurant, qu'est-ce qu'il est pourri, c'était tout brûlé. Bon, souvent, on aime mettre en plus des choses assez négatives, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Amazon, c'est ces commentaires qui vous accompagnent quand vous allez acheter. Eh bien, Amazon donc se plie à une demande particulière, hein, des autorités chinoises, c'est que sous certains achats, vous ne pouvez pas mettre de commentaires. Et en particulier, sous les achats de livres qui pourraient être des achats de propagande des autorités chinoises. Dans certains ouvrages, si vous aviez envie de critiquer en disant l'ouvrage raconte n'importe quoi, vous ne pouvez pas le faire, puisque les commentaires ne sont pas ouverts et que tout ça s'est fermé. Donc Amazon fait partie de ces entreprises qui se plient aux demandes des autorités chinoises, à cette censure, à cette dictature qui touche évidemment le capitalisme, puisque si on a aujourd'hui une énorme classe moyenne qui consomme, voire se met à surconsommer en Chine, je ne parle pas des riches qui font fortune aujourd'hui en Chine sur le dos du communisme. On se demande encore ce que veut dire ce communisme chinois.
Ah bah si, il reste le côté totalitaire.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
En termes d'économie, on est dans le pur libéralisme et capitalisme.
Et il y a un certain nombre d'entreprises comme Microsoft, LinkedIn, je ne sais jamais le dire, machin de réseau professionnel, vous aurez compris, et Yahoo qui ont quitté le marché chinois cette année, parce que ça devenait a priori trop compliqué de suivre les demandes des autorités chinoises. Mais Amazon, comme d'autres, font les efforts demandés pour pouvoir continuer à occuper le terrain. Amazon, n'oublions pas, à son Kindle, hein, c'est le précurseur de l'ouvrage numérique sur cette petite tablette. Et c'est grâce à ce marché particulier qu'Amazon continue à se répandre. Et la Chine est un territoire absolument majestueux, bien évidemment. Alors, je continue avec une dernière information du capitalisme. Je vais continuer avec le capitalisme. Alors on va partir au Japon parce que c'est drôle, la mondialisation. Il se passe des trucs intéressants avec une multinationale qui s'appelle McDonald's. Je ne sais pas si vous connaissez. McDonald's a des trucs bizarres des fois. C'est bizarre. Vous savez, alors, quand vous allez à l'étranger, McDonald's propose des fois des spécialités du pays. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un burger, je ne sais pas, en Corée du Sud, avec du kimchi à l'intérieur, si vous voyez le kimchi, ce que c'est. Dans d'autres pays, vous allez avoir de la sauce au curry, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En France, on se souvient qu'on a été les joyeux consommateurs et consommatrices des salades. Aujourd'hui, on a la baguette proposée par McDonald's. Et au Japon, McDonald's fait fureur sur les fêtes de fin d'année, parce que ça semble, comme les KFC, pour certains Japonais et Japonaises, ça représente les fêtes de fin d'année.
C'est incompréhensible.
Le poulet.
Ouais, c'est ça.
C'est pas tant le hamburger que le petit ouais. poulet que tu vas manger, le petit nuggets. KFC fait fureur. Hein, ça représente un truc de fantastique. Hein, c'est fantasmé, hein, tout ça. On va manger du poulet. Et du coup, on peut fêter Noël dans la joie et la bonne humeur avec sa famille. Donc, il y a des grands rendez-vous. Et là, McDonald's a annoncé qu'à partir de demain, vendredi 24 décembre, les parts de frites allaient être réduites. Puisqu'il y a une petite pénurie de frites. Alors
ça pousse pas au Japon, les frites. Hein. Enfin, non. Les pommes de terre, je veux
voilà,
dire.
C'est plutôt la patate hein, qui est une pénurie. Mais c'est bien le problème hein, du Japon, c'est qu'il y a un problème d'autonomie alimentaire sur un certain nombre de produits. Sur les fruits et les légumes, par exemple. C'est un territoire, effectivement, qui est très montagneux. Mais pour autant, c'est aussi un pays qui consomme beaucoup. En particulier aussi avec une alimentation qui se diversifie. C'est
et
ça,
pas
la mondialisation.
Que de la mer, alors, parce qu'au départ, ils pêchaient beaucoup.
Et voilà, et McDonald's, bon, si tu veux, le machin le fiche à l'intérieur, ouais. Je sais pas. On se demande s'il vient de la mer, il paraît que oui, mais bon, je vais pas juger sur pièce. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de patates, parce qu'elles viennent du Canada, les patates, et qu'il y a eu des inondations qui ont empêché la patate de venir jusqu'au Japon. Et que donc, McDonald's, n'ayant plus ses petites patates du Canada, se retrouve à plus pouvoir livrer ses frites de Noël. Et puis, en plus de ça, bah, y a des petits problèmes d'approvisionnement qui sont aussi liés à la pandémie. Et encore une fois, donc, bah, tous ces retards d'approvisionnement s'accumulent. Et puis, bah, McDo a pas ses petites patates. Et donc là, c'est assez typique de ce qui se passe, hein, de cette mondialisation, où on a un produit normé, la frite McDo, qui vient que d'un endroit précis, le Canada, et qui se retrouve donc bah, pas pouvoir fournir ses clients, parce que évidemment, bah, le Japon n'a pas cette petite patate. Et puis on peut penser que même s'il l'avait, de toute façon, il y a une forte chance que McDonald's aille la chercher ailleurs, parce qu'il y a des pays où, comme en France, McDo a beaucoup fait, vous savez, on vous vend du blé français, de la patate française, parce qu'il y a eu un effet Beauvais. Hein,
oui,
si vous vous souvenez,
mais c'est quand même beaucoup plus facile en France, qui est un énorme producteur agricole.
Mais ça n'a pas été toujours aussi simple, hein, parce qu'à un moment, en fait, c'était plus simple pour ces multinationales d'aller chercher le même produit dans le même endroit du monde pour pouvoir ensuite, après, l'exporter de partout et avoir vraiment une norme dans son produit. Donc là, c'est assez intéressant de voir à la fois un truc culturel bizarre, de voir des Japonais et Japonaises se rendre dans des restaurant de fast-food de multinationales par fantasme, et puis de voir qu'une multinationale est plus capable de servir ses clients. Et puis je vais terminer par un truc moins drôle, hein, vous m'excuserez, on va commencer à attaquer les trucs pas drôles.
Parce que moi je fais du drôle après.
Ah, bon, bah alors ça ouais. va être le parti pas drôle. Le Japon a recommencé à assassiner ses condamnés à mort, c'était pas arrivé depuis 2019. C'est les premières exécutions qui ont lieu sous le mandat de Fumio Kishida, qui est arrivé au pouvoir hein, comme Premier ministre en octobre dernier. Alors, comme d'habitude avec le Japon, on a appris ça une fois que c'était fait.
Oui, personne n'est au courant, même les familles hein, en général. Hein,
donc là, ça a été annoncé ce mardi 21 décembre. Trois hommes, deux hommes de 54 et 44 ans qui ont été condamnés pour un double meurtre commis en 2003. Et puis un homme, alors c'est glauque, je vais quand même vous le raconter, hein, mais 65 ans, qui a été condamné pour le meurtre de sept membres de sa famille et de ses voisins en 2004. Il a assassiné tout ce beau monde au marteau et au couteau. Donc ils ont été exécutés, c'était pas arrivé comme je vous disais depuis 2019. En 2019 il y a eu 3 personnes qui ont été assassinées par l'État japonais. En 2018 c'était 15, dont des membres de la secte Aum, on se souvient. Hein,
ceux qui avaient fait l'attentat dans le métro
ouais,
Sarin,
en 1995 effectivement. C'est pas bon signe hein, que sous ce gouvernement de Fumio Kishida la peine de mort soit remise en route. Alors qu'il y avait un peu quand même des tentatives de discussion au niveau international pour que le Japon sorte de ce système d'assassinat. Il y a à peu près 100 condamnés à mort dans les couloirs des prisons au Japon. C'est principalement des hommes qui attendent hein, depuis des années. Là, imaginez un peu quand même, hein, on est en 2021. Ces trois hommes étaient dans les couloirs de la mort depuis de nombreuses années. Alors, on peut toujours vous dire qu'ils ont gagné quelques années de vie avant d'être exécutés, mais on sait que attendre la mort dans une prison est quelque chose qui relève de la torture. Hein. Mental. Les prisons japonaises sont extrêmement difficiles pour ce qu'on en sait à vivre. Mais le gouvernement semble dire qu'il y a trop de crimes atroces et que donc il va falloir commencer à sévir et amener une réponse à ces crimes atroces, ce qui tend à dire que ben, ça va peut-être se poursuivre.
Voilà. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de lien entre les peines de mort et la baisse de la criminalité.
Allez, on parle de chef, s'il te plaît.
Ouais, alors moi je vais faire des infos un peu drôles parce que c'est le 23 décembre et que...
Et que le 23 décembre, c'est vachement classe.
Ouais, c'est qu'on en a marre des pandémies, des machins comme voilà. ça. Alors moi j'ai parlé de chèvres.
Ah bah vas-y.
Bon, je vais aller voir les religieux. Les religieux sont rarement des gens sympas. Ouais.
Il faut, ça dépend.
Il faut. Oh, quand même. Ouais, je sais pas. Ils ont beaucoup massacré, en tout cas dans le passé, voire dans le présent. Donc là, on va aller chez les catholiques, hein, qui ont beaucoup massacré. Hein. On pense aux chevaliers cathares, on pense aux protestants à Saint-Barthélemy. Je vous parle même pas des viols dans les, au Canada ou dans ces pays-là, ou dans certains orphelinats.
Tu peux dire en France, hein, ces pays-là,
France,
ces pays-là.
Peut-être aussi. Voilà. Donc non, là, on va en France, hein, pour le coup. C'est à Lorette, je ne sais pas où c'est à Lorette, et je m'en fous. En tout cas, dimanche dernier, les croyants, la mère, le curé et toute la bande, là, main dans la main, ont fait tuer 9 chèvres. Alors on dit, putain, mais pourquoi les cathos font tuer des chèvres? C'est quoi le concept, là? Donc dimanche dernier, ils ont organisé une battue pour tuer le plus de chèvres possible. Et là, on se dit, mais attends, mais c'est quoi ce machin? Ils sont complètement dingues. En fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, ces chèvres, elles allaient manger les fleurs du cimetière. Bah, les chèvres, elles étaient libres. Elles n'étaient pas anciennement domestiquées, mais là, c'était un troupeau dit sauvage. Et a priori, la mère de Lorette et puis ses amis catholiques détestent les troupeaux sauvages. Et surtout quand ils vont bouffer les fleurs du cimetière. Alors, plutôt que de fermer le cimetière... parce que souvent c'est fermer les cimetières et de laisser les animaux vivre leur vie à l'extérieur. Non, 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 non. Ils y sont allés, ils ont massacré donc ces 9 chèvres. Alors c'est la deuxième fois, le week-end d'avant, ils avaient déjà tué une chèvre et un bouc. Donc ils mandatent hein, bien évidemment la société de chasse locale pour aller tuer ces pauvres animaux qui n'avaient rien demandé à personne. Alors en fait, ce troupeau sauvage vit sur une colline à proximité. Il n'a pas de propriétaire, c'est vraiment un petit troupeau sauvage tranquille de chèvres qui broutent de l'herbe. Alors il y a un deuxième truc drôle, c'est que la mère de Lorette a mis en demeure SFR de faire quelque chose. Alors on dit, mais qu'est-ce que vient faire un truc de téléphone là-dedans? En fait, SFR est propriétaire de ce bout de colline et c'est de leur faute si les chèvres ne sont pas parquées. Donc il faut qu'ils parquent leur terrain. En fait, ce qu'ils vont faire à SFR, c'est qu'ils vont parquer mais virer les chèvres, s'il y en a qui reviennent, et comme ça, s'il y a d'autres chèvres sauvages, elles ne pourront pas aller là, mais elles iront ailleurs. Enfin, grosso modo, ce qu'est en train de nous dire ces catholiques et cette mère, c'est que la vie sauvage, elle n'a pas sa place aujourd'hui dans notre monde. Si ça vient manger des plantes, et notamment des plantes dans un cimetière, c'est inadmissible, ça mérite la mort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, la SPA n'a pas été très enchantée de ce qui s'est passé. Vous imaginez bien, la Société Protectrice des Animaux. Ils ont expliqué qu'ils auraient pu trouver une autre solution, notamment s'occuper de récupérer les chèvres, les mettre ailleurs, pas les tuer pour rien, comme ça. Et c'était le responsable du service d'enquête maltraitance de la SPA qui s'exprimait. Donc voilà, bon, c'est une info qui n'a pas beaucoup de sens, vous me direz, mais voilà, les cathos de Lorette n'aiment pas la vie sauvage et tuent les chèvres quand il y a des chèvres sauvages, parce qu'elles mangent les fleurs dans le cimetière.
Alors, comme moi, je m'en fiche pas de la géographie, Lorette, c'est dans la Loire. C'est une petite bourgade plutôt industrielle, il faut le dire. Assez récente. Hein, donc
c'est le maire de Lorette.
Administrative.
Il s'appelle Gérard Tardy. Tiens.
Voilà. Et ben voilà, c'était juste pour vous dire que où ça se situe, parce qu'on s'en
dans
fiche pas, en fait, dans la géographie.
Ouais. Ah bon, je vous conseille pas d'y aller, ils ont pas l'air sympas, quand même. Parce que si vous êtes un être humain errant, ils feront peut-être la même chose. Hein.
En tout cas, le slogan de la ville, c'est ville d'avenir et de tradition.
Ah, la tradition, c'est... Voilà. Pas d'animaux sauvages chez nous, s'il vous plaît.
Voilà. Voilà.
Je continue ?
Si tu veux.
Alors, je continue au début avec un sujet sérieux, et puis après, on va se marrer, parce que c'est... Voilà, hein. On va parler d'anthroposophie. Alors, tu nous en avais reparlé, puisque l'été dernier, le journal Le Monde avait sorti des articles un peu sympathiques envers ce mouvement sectaire. Il y avait eu pas mal de réactions. Donc, on vous rappelle, hein, c'est un courant pseudo-philosophique, ésotérique, pseudo-scientifique, qui s'appuie sur les pensées et les écrits d'un occultiste autrichien qui s'appelle Rudolf Steiner. C'est une doctrine religieuse, ésotérique, qui mélange plein de choses. Ça prend chez les différentes religions. Le christianisme est pas mal présent, mais ça prend aussi dans les religions indiennes. Ça parle de karma, de réincarnation. La réincarnation va très loin chez eux, parce que les planètes se réincarnent. Steiner, c'est un cramé du cerveau, un truc assez incroyable, et on va en parler justement. Et le mouvement existe, donc est très implanté dans pas mal de pays, notamment en Allemagne, et toutes ces choses sous le nom d'anthroposophie, en fait, il y a une institution qui gère un peu tout ça, qui coordonne quelque part, qui se trouve en Suisse, qui a donc pignon sur rue. Alors Rudolf Steiner, hein, on parle de quelqu'un qui est né au 19e siècle, à la fin du 19e, qui mourra au début du 20e siècle en Suisse, d'ailleurs. Il est né en Croatie, mais ça ne s'appelait pas la Croatie, c'était encore l'Empire austro-hongrois. Voilà, alors c'est lui qui a fondé ce mouvement, l'anthroposophie, donc une doctrine spirituelle. Et puis, il va faire dériver de sa doctrine spirituelle des applications dans l'éducation, c'est là où c'est le plus connu, dans l'agriculture, très connu aussi, et dans la médecine, alors la pseudo-médecine, puisque c'est quand même proche du ridicule. Ça existe toujours, c'est très très fort, il y a toujours des écoles Steiner, il y a quelques adeptes de cette pseudo-médecine, et surtout, il y a une partie de l'agriculture, notamment dans le vin, qui est en biodynamie. La biodynamie, c'est totalement issu de l'application de l'anthroposophie à l'agriculture. Il y a aussi d'autres applications dans d'autres domaines, mais c'est un peu moins connu.
Oui, non, je plus sois.
Alors, en fait, au départ, hein, quand il a fondé son truc... Alors, c'est quelqu'un qui a été... je ne sais pas s'il était célèbre ou pas, mais il a écrit plus de 20 livres, hein, sur tout ça, fait 6000 conférences, donc il parlait beaucoup, qu'on retrouve, hein, qui sont transcrites dans plus de 300 volumes. Ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai fait en partie, mais pas, je ne suis pas allé super loin, c'est que sur certains sites, on les trouve en téléchargement gratuit, c'était début du 20e, donc c'est tombé dans le droit public, hein, ces propos, ces livres. Et on peut les trouver en téléchargement en numérique, ça vous permet de passer un petit moment à lire, mais vous ne lisez pas tout, parce qu'à la fin, vous en avez marre tellement que c'est aberrant. Hein. Donc voilà. Alors lui, c'est quelqu'un qui rejette, on rappelle, un début 20e, fin 19e, début 20e, la science prend une place importante dans la société. De plus en plus. Hein, on sort de la révolution industrielle. Alors, ça dépend des pays, mais il y en a qui rentrent seulement. Mais voilà, on est en plein dedans. La médecine se modernise avec des pratiques rationalistes et on arrête les trucs ésotériques. Et il va y avoir un mouvement de résistance à tout ça, de résistance au progrès, de résistance à la science. Steiner est issu de cette lutte anti-science. Et c'est avec ça qu'il va fonder l'anthroposophie. Parce que pour lui, la rationalité des maths et de la science, c'est pas possible. Alors lui, il explique, ça explique à la rigueur votre monde que vous voyez tous les jours, le monde visible, mais par contre, c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le monde invisible, qui est fait d'esprit et de force surnaturelle. Ça, c'est lui qui le dit, bien évidemment, parce qu'on sait que c'est pas tout à fait ça. Donc, il crée tout ça. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que finalement l'anthroposophie ? C'est un mouvement religieux ? Oui. C'est une pseudo-science ? Oui. Mais alors, c'est plein d'autres choses. Hein. Par exemple, lui, il explique que Bouddha s'est réincarné sur Mars. Hein, allez comprendre. Que Mars est une planète liquide. Que la Lune est faite de cornes vitrifiées. Que le cosmos s'arrête à Saturne. Je redétaillerai après tout ça. Que ce sont les gnomes qui font pousser les plantes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, les gnomes, je ne les vois pas bien. Hein, pourtant, je fais un peu d'agriculture, je mets les mains dans la terre, tout ça. Je n'ai jamais vu de gnome. Enfin, voilà, il explique comme ça plein de choses. Et alors, ça serait drôle si c'était juste des livres datés et si ça n'avait plus d'existence. Or, les écoles Steiner-Waldorf, pour prendre leur vrai nom, sont aujourd'hui très présentes à travers pas mal de pays occidentaux. Hein, on a ces écoles-là. Et puis, il y a des entreprises qui sont très connues. On parlera de Velleda. Entreprise, je crois, qui est allemande, qui fait des produits bio.
Pas forcément d'ailleurs, excuse-moi.
Pas toujours bio, ouais.
Naturel.
Naturel, qui défend l'anthroposophie. Alors, il faut dire quand même que avec son côté de rejet de la science, c'est lui qui a créé la première idée de culture biologique, sans apport chimique. Ce qui va lui donner une aura a posteriori, qu'il ne méritait pas, bien évidemment. On pense à la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, une banque proche de l'anthroposophie, qui existe aussi. Il y a d'autres magasins comme les Biocop, hein,
qui sont cités souvent comme étant de pratiques assez proches.
Voilà. Et alors, même dans l'actualité moderne, on a. Alors, j'ai découvert ça aujourd'hui. Il y a une nouvelle pétition contre le pass vaccinal. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Sur un blog qui s'appelle Les Lignes qui bougent. Et c'est un blog, donc, c'est fait et créé par des anthroposophes qui, donc, demandent l'arrêt, parce qu'ils sont anti-vaccins, bien évidemment, ils sont anti-médecine moderne, hein, donc ils sont anti-vaccins. Et d'ailleurs, ils font plein de pétitions, il y en a une qui est marrante, sur le gui fermenté, puisqu'ils disent que ça soigne le cancer, tout ça, le gui fermenté. C'est un des remèdes charlatanesques typiques des escrocs anthroposophes. Voilà. Bon, alors ça, c'est la partie sérieuse. Il y a des livres qui existent, il y en a un dont tu m'as parlé il n'y a pas longtemps, sur la dérive de ces nouvelles pratiques sectaires. Alors là, ce n'est pas une nouvelle, mais c'est une nouvelle forme de pratique sectaire. Il faut savoir que l'anthroposophie et Steiner ont beaucoup influencé un mouvement sectaire des années 80 qui s'appelle le New Age. Et il y a un livre que...
Oui, alors, c'est le nouveau péril sectaire dont tu cherches peut-être titre, qui a été écrit par Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglaudre. Moi, j'émettrais quelques réserves sur le contenu de l'ouvrage, qui a le mérite d'être... de toucher un peu à tout, c'est-à-dire le cruvidorisme, les intégristes catholiques, diverses formes aujourd'hui de dérives sectaires ou de sectarisme que l'on voit dans notre société. C'est assez rapide, ça se lit bien, c'est un ouvrage qui peut permettre, c'est vrai, de se plonger un peu dans ces différentes mouvances. Après, reste que parfois l'écrit est un peu particulier. L'ouvrage a, à mon avis, un intérêt, c'est de rappeler qu'aujourd'hui, en France, on n'a plus aucun moyen au niveau du gouvernement, l'État ne met plus d'argent pour lutter contre les dérives sectaires et pour les divers groupes qui sont en train de s'installer. Voilà. France et qui font soit de l'argent, soit de la manipulation mentale, soit de la désinformation et qui participent aujourd'hui à ces pratiques sectaires et à ces dérives. L'ouvrage a vraiment ce mérite parce qu'il s'est rappelé un peu tout le long. On avait quand même l'ami Vilude qui a été extrêmement active, qui jusqu'en 95 sortait ce guide avec des noms de personnes, de groupes, d'associations, de collectifs qui étaient nommés pour des pratiques sectaires. Et
notamment l'anthroposophie et les écoles Steiner.
Et puis, il y a eu des plaintes. Donc, ce rapport n'existe plus parce qu'il paraît que, du coup, on visait trop les gens. Tu parles, ma bonne dame, tu penses bien, quoi. Et puis, il y a un vrai fond du problème qui est soulevé dans l'ouvrage et que je trouve aussi est intéressant. C'est qu'on a aussi des gens dans nos différents gouvernements successifs qui sont parfois assez proches de ces mouvements. On a eu une ministre de la Culture assez proche, directrice patronne d'Actes Sud.
Une maison d'édition, oui.
On peut citer, elle ne se cache pas d'avoir créé elle-même une école. Elle se défend après d'y avoir mis en place des dérives sectaires, bien évidemment. Mais on a aussi un système qui se met en place au sein des différents gouvernements où les gens, soit parce qu'ont des croyances eux-mêmes liées à ces pratiques, soit ont d'autres croyances religieuses et n'osent pas taper sur les autres, soit ont des amitiés qu'ils ne veulent pas abîmer. Et donc aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour l'ami Vilude, mais on n'a plus d'argent non plus pour les associations de familles ou de gens qui sont sortis de ces groupes sectaires, pour les accompagner et pour faire face à ces nouveaux groupes. Il n'y a plus rien. Et je trouve que c'est l'intérêt de cet ouvrage, c'est au moins de pointer ça plusieurs fois dans différents chapitres.
Ouais, et sur l'anthroposophie, il y a notamment un ancien professeur d'une de ces écoles qui est lanceur d'alerte.
Grégoire Perra.
Voilà, qui a fait pas mal de choses, qui a fait un blog où il raconte un petit peu, il récupère des témoignages. Et c'est assez édifiant. Il y a plein d'infos qui sortent toutes les semaines sur des écoles où les parents partent parce que les élèves n'apprennent pas l'histoire, parce que l'histoire, non, c'est pas important. Et puis ils n'apprennent pas la science non plus, du coup, c'est un peu. Voilà, il y a plein de choses. Surtout, ça casse parce qu'ils sont beaucoup implantés dans le milieu écologique et ça enlève de l'importance à l'écologie rationnelle. Et l'écologie rationnelle, c'est celle qui peut gagner, parce qu'on a des arguments scientifiques, etc. Or, elle est remplacée en partie par cette écologie ésotérique. Et là, on perd. Du coup, l'écologie est perdante, en tout cas. Alors, maintenant, je vais faire le truc drôle.
Parce qu'on aurait pu dire que Pierre Rabhi, qui a été
assez proche, hein,
assez proche, hein, qui a des pratiques, lui-même, des fois il fallait mettre aussi des trucs dans la terre et puis tourner autour en chantant. Parce que la biodynamie, hein, c'est ça. Hein, je veux dire, je caricature.
Non, mais je vais détailler, tu vois.
Mais ouais. Pierre Rabhi, quand même, que une partie de la gauche a encensé en disant que il avait été génial et magnifique. Bon, ok. Un peu homophobe, un peu conservateur, un peu sexiste. Mais finalement, en 2021, c'est pas grave d'être homophobe, tant qu'on aime l'écologie. C'est un peu ça que moi j'ai entendu quand même dans tous ces hommages rendus à monsieur Pierre Rabhi. Ouais.
Alors, je vais reciter quelques phrases comme ça, tirées des livres que vous pourrez retrouver. Alors, quand il parle de science, c'est intéressant. On rappelle, hein, il est contemporain. Il est un petit peu plus vieux, mais il a connu Einstein, hein, parce qu'il a pas mal écrit contre la relativité d'Einstein. Il dit, alors par exemple, les sciences de la nature parlent d'un monde composé d'atomes. On est au courant des... Ces atomes dont parlent les sciences de la nature n'existent que dans leur imagination. Ils n'existent nulle part dans le monde. Donc lui, il n'y a pas d'atomes. Et après, ce qui se manifeste dans les plantes n'est pas lié aux atomes et aux molécules. Ainsi, la configuration d'une substance terrestre n'est pas le fait de petits démons, puisque pour lui c'était des démons, les atomes, les molécules, mais de forces cosmiques. Sur la Terre, il est charbon, ou graphite, ou anthracite, ou diamant. Sur la Lune, il est argent. Si en ce moment, on pouvait projeter un morceau de notre charbon noir ordinaire sur la Lune, il deviendrait argent. Oui, ça se transmute. Alors ça, c'est des extraits de « Histoire du monde à la lumière de l'anthroposophie »,« Médecine et sciences spirituelles » et « Être universel et essence du moi ». Alors c'est assez incohérent. Sur le côté religieux, c'est très drôle quand il parle de Jésus. Je vais vous citer des extraits du 5e évangile de Jésus au Christ et du christianisme ésotérique et la direction spirituelle de l'humanité. Trois livres. Il y en a un, il dit « Ce tremblement de terre était une conséquence de l'éclipse de soleil ». Alors déjà, les éclipses, ça fait des tremblements de terre. Il était quand même pas bon en science. Il bouleversa le tombeau dans lequel le corps de Jésus était déposé. La pierre qui l'obturait fut déplacée et une faille s'ouvrit dans le sol. Un nouvel ébranlement referma la fente au-dessus du cadavre. Et lorsque les gens vinrent au matin, le tombeau était vide, car la terre avait absorbé le corps de Jésus. Seule la pierre tombale était encore là, déplacée plus loin. Il arriva qu'à la mise au tombeau, alors il explique pourquoi en fait, il arriva qu'à la mise au tombeau, les substances matérielles se volatilisent rapidement. C'est pourquoi les disciples qui vinrent voir la tombe trouvèrent les linges qui avaient enveloppé le corps. Il trouvait que ça, ici, c'était évaporé. Il ne fallut que très peu de choses pour que ce corps tombe en poussière dans le tombeau et que l'esprit du Christ se révèle, se revête d'un corps éthérique qui se densifia jusqu'à devenir physiquement visible. Donc lui, il explique. Hein, voilà, il est dans l'ésotérisme. Donc il a cette dérive. Enfin, il parle de Jésus. Hein, il est assez proche finalement de certains courants ésotériques au sein de l'Église catholique ou de l'Église tout court des chrétiens. Alors après, ça va être bien mieux. Attention, on va parler des Atlantes. L'Europe, l'Asie et l'Afrique furent progressivement occupées par les descendants des Atlantes. Divers peuples s'y installèrent, inégalement évolués, inégalement pervertis. À l'époque, au milieu de la race mère atlantéenne, on a pris le mercure sous forme éthérique sur mercure. Si nous n'avions pas le mercure, nous n'aurions pas le principe Christ. Alors des fois, c'est pas compréhensible ce qu'il dit. Donc là, il prend le mercure, parce que sur mercure, pour lui, c'est du mercure. C'est le nom qu'il donne. Et puis quand tu l'amènes ici, ça devient le Christ. Enfin, c'est bon. Après, il dit aussi, à l'ère atlantéenne, l'homme disposait encore d'un pouvoir sur la force des semences. Et l'utilise sous forme de vapeur. Ces forces ont une relation mystérieuse avec celle du vent des intempéries. Enfin bon, il y en a des lignes. Donc voilà, l'Atlantide, là où vivaient les Atlantes, donc sont à l'origine de tous les êtres humains. Voilà, c'est pas mal. Ah, un truc pour toi là. Tu sais, dans Star Trek, il y a un personnage qui a les mains un peu bizarres, là, il arrive à écarter les doigts. Il vient d'une planète qui s'appelle...
Ah, c'est Vulcain, tu me parles.
Voilà.
Un truc que je sais pas faire avec les doigts d'ailleurs.
Ouais, moi non plus.
Peux t'en apercevoir.
Donc, eh ben, je me demande si Star Trek, les créateurs, n'avaient pas lu Steiner, puisque Steiner parle de Vulcain, de la planète Vulcain. Je ne sais pas ce que c'est cette planète, on ne la connaît pas. Mais... Alors, je cite, alors, c'est dans Perspective du développement de l'humanité, dans Théosophie du Rose-Croix, dans ces deux livres. Au moment où la Lune s'unira à la Terre, les êtres dont j'ai parlé descendront peu à peu vers la Terre. Des surhommes de Vulcain, de Vénus, de Mercure, du Soleil s'uniront à l'existence terrestre. C'est dans la dernière incarnation de la Terre, parce que la Terre s'est réincarnée en fait, hein, celle de Vulcain, que le moi étendra atteindra l'apogée de son évolution. Nous retrouverons ces dénominations dans les termes qui désignent les jours de la semaine. Alors ça, j'ai pas compris. Il y a toute une explication sur comment on se réincarne en jour de la semaine. C'est imbitable, hein, je peux le dire. Après, je continue. De même, des êtres de Vulcain descendent maintenant sur la Terre. Nous avons en fait déjà sur Terre des êtres supraterrestres. On s'en est pas rendu compte. Nous sommes redevables du fait que ces êtres sont là. La théorie, alors du coup, en lien avec les Vulcains, il attaque la relativité d'Einstein. La théorie de la relativité est aussi logique que possible, mais elle n'est pas conforme à la réalité dans beaucoup de ses applications. La preuve, attention, la preuve, la théorie ne mentionne pas l'existence de Vulcains. Donc voilà, la relativité d'Einstein ne marche pas parce qu'elle ne présente pas, ne parle pas de l'existence de Vulcain. Alors, il fait pareil sur Saturne, je ne vais, pas vous dire tout ce qu'il accorde sur Saturne, comme ça. Je vais plutôt revenir sur justement la biodynamie. Donc, il est quelque part le premier label éco-bio hein, d'agriculture. Mais alors, par contre, c'est pas rationnel. Alors, il explique... alors, c'est en 1924 hein, qu'il fait son cours aux agriculteurs. Il explique que pour faire pousser des légumes biodynamiques, c'est un art agricole basé sur 8 préparations. Donc il y a 8 préparations importantes. On va en parler de quelques-unes parce que c'est drôle. Et le but, c'est de mélanger le monde animal et le monde végétal. Alors, 6 des 8 préparations mettent à contribution des animaux qui vont donner leurs organes, enfin à qui on va leur prendre de force hein, leurs organes, pour les mélanger. Il faut tuer des animaux, quoi, quelque part, pour faire pousser des légumes. C'est pas du bio-vegan, la biodynamie et Steiner, hein, pas du tout. Alors il explique après, les êtres élémentaux furent probablement créés avant le début de l'Atlantide en tant que seconde création. Alors il faut savoir que pour lui, il y a des elfes, des démons, des choses comme ça, qui interviennent pour faire pousser les légumes. Et c'est sur ça dont est basé les principes de la biodynamie. Hein, si vous achetez du vin en biodynamie, ou Déméter, hein, c'est la version moderne, c'est là-dessus.
Alors, la question n'est pas si vous achetez, vous n'achetez pas.
Oui, oui. Préparation, alors je vais faire quelques préparations, j'en ai pris 4. La préparation 507. Donc cette préparation apporte, d'après... alors c'est Guide à l'agriculture biodynamique, Déméter, qui est paru en 2009. Hein, c'est pas toi. Ouais. Alors, cette préparation apporte principalement les forces de chaleur de la planète Saturne. Elle permet de gérer le processus phosphore dans les fumiers et les composts. Donc comment, qu'est-ce qu'il faut? En fait, il faut de la valériane, mais il faut la cueillir en pleine floraison le matin en jour-lumière. En jour-lumière, ça doit être au lever du soleil. Et il explique, la pratique a montré qu'une pulvérisation de valériane la veille au soir d'une nuit de gel peut élever de 2 degrés la température ambiante. Alors ça, vous pouvez faire un essai, mettre un thermomètre et vous allez bien vous marrer. Alors ça, c'est la 507, hein, une des 8 préparations. La 503, elle est pas mal aussi. C'est une préparation qui va, d'après eux, tempérer les excès des forces éthériques de la fumure. La fumure, c'est de l'engrais. Elle correspond à la planète Mercure, cette préparation 503. Ça consiste alors à remplir des intestins. On va prendre l'intestin grêle de vache, qui ne doit pas avoir été malade, et remplir de fleurs de camomille. En fait, on presse l'intestin en le faisant passer entre les doigts pour en faire sortir le contenu. Il ne faut pas le laver ni le retourner surtout, attention. Et ensuite, on le remplit de camomille. Et vers la Saint-Michel, alors je ne sais pas quand c'est, mais c'est écrit le 29 septembre, on remplit délicatement l'intestin donc avec ces fameuses fleurs de camomille. Et ensuite, on va pouvoir s'en servir. Ça a l'air bien. Allez, la 500. Alors, la puissance de la préparation 500 est due, je cite, à la qualité d'invocation. Attention, il faut invoquer. L'usage de la préparation 500, c'est une sorte de sacrifice offert. C'est officiel, hein. C'est dans le texte sur la biodynamie Déméter de 2009. Ça doit être considéré comme un sacrifice offert aux gnomes et aux ondines. Je ne sais pas ce que c'est qu'une ondine, mais un gnome, je vois bien ce que c'est. Donc, il faut prendre les cornes de vache, de la bouse de vache. On mélange tout ça dans un processus un peu bizarre et ça va agir. Comment ça agit? En fait, je cite le livre sur Déméter, là. Ça va collecter et concentrer des forces du plan éthérique et astral et ça va les digérer ensuite vers le lieu de la digestion de la vache. C'est pour ça qu'on récupère de la bouse de vache et ensuite ça va être bon pour le sol. C'est dingue.
Sinon, l'ondine, c'est les génies des eaux.
Ouais,
fais court. Voilà.
Merci. Et je vais pas terminé encore. J'ai encore 2 petits trucs. Alors, en préparation 501, donc là, c'est encore une fois un sacrifice offert aux ondines et aux sylphes. avec un Y. Je ne sais pas ce que c'est, des sylphes, mais ça doit être des petits êtres magiques.
Comme je ne vais pas toutes te les faire ce soir, si tu veux. Écoute, il faut te mettre un peu à la musique baroque et tu verras. Dans la fantaisie, il y a plein de choses.
Il nous explique, hein, Steiner, que les ondines et les sylphes ont bien été créées avant l'Atlantide. C'est important, ça. Donc là, il faut encore des cornes de vache, il faut du quartz, il faut mélanger. Et en fait, comme ils le disent dans leur livre, ça va être comme un petit autel placé sous la surface de la Terre. Ça va capter les forces lumineuses, donc dans la Terre, hein, c'est fort quand même, la lumière rentre dans la Terre. Ça va les métamorphoser dans l'obscurité en force de fécondité. Et donc la corne de vache ça a comme tâche dans cette préparation de collecter ses forces. Voilà, c'est beau, hein. Et alors, pour terminer, et en fait, quand vous lisez les livres, hein, c'est un tissu de conneries assez incroyable. Ça, là, les préparations, elles sont donc dans les livres officiels, hein, sur Déméter. Déméter et la biodynamie, donc les livres qu'on trouve dans le commerce, qui sont récents, qui sont utilisés par certains agriculteurs, en tout cas sur certains qui font du vin. Alors, j'ai trouvé un truc dans le 5e évangile, où il parle notamment du sport. Et alors, vous allez voir, je cite, là, c'est assez beau. Prétendre que l'homme descend de l'animal, c'est du darwinisme théorique. Donc il n'est pas d'accord. Quant au darwinisme pratique, c'est le sport. Cette institution d'une éthique qui ramène l'homme au rang de l'animal. Donc quand vous faites du sport, vous ramenez l'homme au rang de l'animal. Donc il est anti-sport. Ensuite, sur la biologie, qu'il déteste, hein, comme toutes les sciences, mais celle-là plus particulièrement, il dit « Ce type de connaissance ne peut jamais venir... » des sciences naturelles, il parle pour faire de l'agriculture. Ça vient jamais de la science naturelle. Quand les choses sont véritablement étudiées par rapport à leur qualité spirituelle, il devient évident que dans notre époque moderne, que l'humanité a été gravement atteinte par la consommation excessive de pommes de terre. Et je ne sais pas pourquoi il sort ça d'un coup. Donc pour lui, si on est atteint dans notre dimension spirituelle, c'est parce qu'on bouffe trop de patates. C'est peut-être pour ça qu'au McDo... Non, c'est pas ça. Enfin, voilà, c'est incompréhensible. Et alors, le dernier truc sur la religion, que j'ai trouvé ça très drôle, je cite, c'est donc dans le 5e évangile de écrit par Steiner, c'est « Bouddha est un envoyé du Christ ayant vécu sur Vénus ». Tu vois, il est venu, il était sur Vénus.
Moi, je note qu'il a été envoyé par le Christ, d'abord. Ouais, c'est-à-dire c'est un sous-Christ.
Hein. Un sous-fifre, ouais. Un employé, quelque part. Voilà. Il s'agit évidemment de résultats de l'observation occulte effectuée grâce et seulement à la clairvoyance. Bouddha va de Vénus à Mars, où il accomplit une œuvre de rédemption. Bon, c'est difficile de faire plus débile. Hein. Et en fait, non mais, tu sais, j'ai un gros fichier, il y a une trentaine de livres, d'articles et de conférences. Et en fait, tout le long, c'est un tissu de bêtises, mais je trouve ça très drôle. Malheureusement, il y en a qui prennent ça au pied de la lettre. Voilà, c'était Rudolf Steiner, l'anthroposophie, méfiez-vous des pratiques ésotériques. L'écologie mérite bien mieux que cet irrationnel-là. Allez, voilà.
Alors, écoute, dans le même genre...
Ah, t'as trouvé un truc aussi pas mal ?
Dans le même genre, je voudrais qu'on revienne sur cet ouvrage qui fait un carton, hein, ce plus de 50 000 exemplaires, 70 000 je crois maintenant. Dieu, la science et les preuves de Olivier Bonassi et de Michel-Yves Bolloré, le frère de Vincent, tout à fait. Grand moment quand même, je dois vous le dire. Je suis donc allée regarder un peu tout ça sur le site de lafnac.com. Un site de vente en ligne, hein, bien connu. Hein. Et c'est bien, c'est parce que c'est un coup de cœur des libraires de Camille de la Fnac de La Rochelle, qui nous explique, après 3 ans de recherche poussée autour d'un objectif commun, les auteurs et 20 spécialistes présentent les preuves modernes de l'existence de Dieu, un livre invitant chacun au débat et à la réflexion, éclairé des dernières découvertes scientifiques.
Et il se sert notamment de la physique quantique. Mais en fait, toutes les théories du livre sont vraiment aberrantes, parce qu'en fait, il n'y a pas... Alors d'abord, on rappelle, la science est montée pour enlever l'hypothèse Dieu de toutes les explications. Donc la science est fondée sur l'antidéisme, en fait. Il faut sortir les hypothèses Dieu de l'explication du monde. Il ne disait pas que Dieu n'existait pas, il dit qu'il faut enlever toutes les hypothèses liées à Dieu. Il y a d'autres raisons. Et là, il y a un retour, mais ce n'est pas la première fois, hein, c'est tous les 20 ou 30 ans, on a un ouvrage comme ça, qui dit, mais on a des preuves. À chaque fois qu'il y a des découvertes, il y a eu ça avec la relativité, et il y a eu ça donc maintenant avec la physique quantique, depuis une trentaine d'années. Alors, physique quantique, c'est début du 20e, hein, c'était il y a longtemps, mais ça revient régulièrement, et ils se servent du hasard, notamment, des choses un peu qui peuvent paraître ésotériques, quand on n'est pas scientifique, pour dire, ben, regardez, c'est Dieu, et il trouve plein d'arguments.
Alors, Michel Yves Bolloré et son frère sont, ne se cachent pas d'être des intégristes
chrétiens,
catholiques. Quand même, moi j'ai lu pas mal du coup d'articles de Michel Yves Bolloré, en tout cas des interviews de Michel Yves Bolloré. Et donc dans l'Express, quand même, le titre de cet article, de cet entretien, c'est Michel Yves Bolloré, deux points, ouvrez les guillemets, si l'Opus Dei était une société secrète, nous serions très mauvais, fermez les guillemets. Déjà, ça annonce la couleur de l'article, je te le dis pas. Alors moi je voudrais juste, on va terminer là-dessus, lire l'arrière hein, de la présentation, le résumé, hein, la quatrième de couve de cet ouvrage, qui dit « 3 ans de travail avec plus de 20 scientifiques et de spécialistes de haut niveau, voilà révéler les preuves modernes de l'existence de Dieu. » On aura donc compris que c'était un long travail, qu'il y avait des scientifiques, des spécialistes, et qui sont de haut niveau. Tout ça pour nous dire qu'il y a de la qualité, hein, quand même, première phrase. « Pendant près de 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'univers sans avoir besoin de recourir à un Dieu créateur. » Là, on te met 2-3 noms d'un peu de gens que tu connais, ouais. On vulgarise la science, tout va bien, c'est parti.
C'est vrai que Darwin a mis un énorme coup quand même aux croyants.
Hein. Allez, dans ta gueule. Et alors, je continue. Et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. De façon aussi imprévue qu'étonnante, le balancier de la science est reparti dans l'autre sens avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'univers, de sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fin de l'univers ou de la complexité du vivant se sont succédées. Alors toute la partie science, elle est juste dans ce résumé, hein, je vous le dis. Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle, au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, ça c'est juste pour toi, au point que l'on peut dire que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Ils n'ont pas osé mettre le mot rationaliste quand même. Mais le matérialisme n'est donc qu'une croyance comme une autre. Je termine dans une langue accessible à tous. Toujours la vulgarisation. Les auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l'histoire de ces avancées et offrent un panorama rigoureux, comme la science, hein, ça c'est de moi, des nouvelles preuves de l'existence de Dieu. Parce que tout ça pour ça, quand même, rappelons-le, hein, c'est pour ça.
Et de Dieu, de leur Dieu, hein, ah, pas du Dieu.
Alors, ils disent que non. Ils disent que non. Qu'en fait, oui, ils ont une religion, ils pensent que c'est la meilleure. Bon, non, ça, c'est moi qui le dis. Mais non, en fait, c'est pour toutes les religions, parce qu'entre croyants, quand même, il faut s'entraider pour dire que, quand même, les scientifiques, au fond, c'est des matérialistes, et eux aussi, ils ont une croyance, hein, et que c'est pas bien.
Eux, en tant que chrétiens, leur religion, elle dit que le monde a été créé il y a quelques milliers d'années, 5-6 000, là, je ne sais plus combien, alors que le Big Bang, c'est 15 milliards, et qu'on a des traces de pratiques religieuses avant encore cette période-là. Ils ont coincé quand même.
Et je vais te dire, la dernière phrase, comme ça, là, pendant les fêtes de fin d'année, à table, vous la sortez et vous avez 3 heures.
C'est un bon débat, ça.
Hein, avec,
plutôt que de parler de Zemmour, parler
et je voudrais
de
bien
ça.
Une bonne conclusion, s'il vous plaît. À l'orée du XXe siècle, croire en un Dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire ? Tintin, vous avez 3 heures. Donc, il s'agit effectivement d'un ouvrage pour nous dire que Dieu existe. La science n'a pas grande affaire là-dedans. Mais comme tu le disais, on voit assez fréquemment des ouvrages ou des églises venir nous dire que la science va pouvoir prouver l'existence de Dieu. Moi, j'attends encore. Il faut qu'il vienne frapper à ma porte. Parce que là, tout de suite, ça ne marche pas. Et puis, voilà, on a quand même 2 conservateurs intégristes, fondamentalistes, hein, pour peut-être du côté des Bolloré, qui nous proposent un ouvrage, ma foi. Parce que, quand même, hein, le petit carton rouge, vous savez, que vous avez dessus, c'est la science nouvelle alliée de Dieu. Celle-là, il fallait me la faire.
Ouais, c'est incroyable.
Et là, je m'enlise quand même, hein, dans la souffrance
intellectuelle. C'est intéressant parce que les 3 religions monothéistes dominantes, là, le christianisme, l'islam celle des juifs, en fait, ils ont du mal avec la science. Ils ont toujours eu ce problème-là. Il y a eu des pratiques religieuses qui étaient beaucoup plus rationalistes sur une partie. Mais ces 3 religions monothéistes sont basées sur les mêmes textes. Hein. Ils ont rejeté la science. Ils sont allés trop loin dans leurs affirmations pour que ça marche, en fait. Et elles n'ont pas évolué avec le temps. Quand on dit qu'il y a eu Dieu a créé la Terre, l'univers, il y a 5000 ans, on est vite coincé par rapport aux mesures scientifiques qui disent que c'était il y a 15 milliards d'années, quoi. Et donc, du coup, et puis quand on trouve des sépultures qui ont 20 000 ans, et là on se dit, ah, mais il y a un petit souci. Et donc, en fait, ils n'ont pas su évoluer, ils auraient pu adapter leur
discours. Alors, l'Église catholique a fait un gros travail de réécriture de ces textes pour que la foi, les textes de la foi puissent coller
Un petit peu. Et d'ailleurs, les créationnistes, qui sont bien emmerdés avec toutes les preuves qui s'accumulent, maintenant, ils parlent de l'intelligent design. Là, en fait, ils sont moins à cheval sur la création à tel moment, mais par contre, c'est Dieu, et c'est la théorie du livre. Hein. C'est très proche des théories américaines de l'intelligent design. C'est de dire, regardez, le monde est tellement complexe, et il va dans un certain sens. C'est la preuve de Dieu, parce que ça ne peut pas être naturel, cette complexité, ça ne peut pas être naturel, cette évolution. Donc voilà, maintenant, c'est ça, en fait. C'est plus le créationnisme, c'est une forme nouvelle. Mais bon, ça fonctionne pas bien, leur truc, quand même. Ils ont un peu du mal.
Je voudrais faire une remarque. Que Camille de la Fnac de La Rochelle soit croyante et nous parle d'un ouvrage... En tant que croyante, en nous disant cet ouvrage est vachement bien, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même Camille, libraire de la Fnac de La Rochelle, qui vante les mérites d'un livre avec du rien dedans, quand même, quoi. Donc, c'est plutôt ça, moi, qui me gêne. Hein. Oui, Camille a le droit de nous dire qu'elle trouve un ouvrage vachement bien sur la religion.
Oui, bah, le truc, c'est que c'est dangereux, quand même, de faire croire ce genre de choses, quoi.
Bah, oui, plutôt. Et puis, encore une fois, que ça soit quand même un best-seller, c'est un problème. Bon, peut-être qu'on pourrait aller leur faire lire tous les articles sur cet embryon trouvé en Chine, ce petit fossile, dont aujourd'hui on a pas mal d'échos, pas mal d'articles, dont certains assez approfondis. Ça, c'est vachement intéressant, et puis donc peut-être qu'ils pourront m'expliquer...
Un fossile qui date d'un certain temps quand même. Tu recherches la date ?
66 millions d'années, c'est ça ?
Voilà, c'est pas mal, hein, 66 millions d'années. Donc la Terre était déjà là. Oh mince !
J'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, c'est vieux.
66 millions, ça me paraît trop long.
Ouais. Ça me paraît trop long aussi, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Enfin, c'est loin. Voilà. Et là, c'est pas du tout scientifique ce que nous sommes en train de faire. C'est très, très mal.
Ah, moi, j'ai pas l'info hein, sur ce petit truc dont tu parles.
Hein. Ici. Donc, ça a été trouvé en Chine. Je suis en train de chercher sa région, parce que à Guangzhou, en Chine. Ce qui est bien aussi, dans les si on veut vulgariser hein, pour le coup les choses, c'est que alors vous avez un fossile. Hein, donc il faut derrière après imaginer, et c'est ce qu'ont fait certains spécialistes, c'est qu'on vous a remis sur les os un peu du duvet pour qu'on puisse imaginer à quoi pouvait ressembler cette petite chose qui ressemble à un oiseau, hein, très, très simplement. C'est assez intéressant de retrouver effectivement ces fossiles aujourd'hui, parce que ça peut expliquer un certain nombre de choses. Il ne faut pas croire que demain on va pouvoir pour autant reproduire ces dinosaures comme dans un film devenu culte et célèbre, mais voilà, ça monte un embryon, et c'est ça qui est aussi intéressant.
Ouais, en fait, c'est l'œuf qui a fossilisé, donc ouais. 66 millions d'années, hein,
c'est
donc
bien,
si, bien ça.
J'avais peur de dire des bêtises.
Donc, l'œuf qui a fossilisé, et en fait, au moment quasiment où le bébé dinosaure allait sortir en fait de l'œuf, du coup, il est bien formé, on voit les traces d'os.
Ouais, c'est super, intéressant. Voilà, c'est toutes ces petites découvertes qui sont en fait des grosses découvertes et qui accumulaient les unes aux autres.
C'est un dinosaure, c'est un oiseau en fait, c'est les ancêtres des oiseaux.
Tout à fait, tout ça. Et qu'on sait plein de choses maintenant, que en fait les dinosaures auraient pu avoir de très belles couleurs et non pas marron verdâtre.
Comme on les faisait
bleu,
avant, ouais.
Des couleurs comme les oiseaux, et qu'il faut imaginer aujourd'hui ce monde d'avant beaucoup plus coloré que on a pu l'imaginer dans nos représentations un peu faciles.
Et ben voilà, ça va être la fin de ce Canu Info. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu de faire.
Non,
à la
mais
fin.
Voilà, c'est comme ça.
On a on a improvisé sur de la science. Je vous rappelle qu'il existe des revues scientifiques, de la plus accessible comme Epsilon,
qui est quand même vachement moins bien, je trouve, que Science et Vie quelque part, parce que les articles sont beaucoup trop courts.
Et sinon, pour la science, qui est la plus compliquée.
Oui.
Donc voilà, il y a pas mal de choses. Il faut penser à se renseigner sur la science.
Sur l'anthroposophie, je l'ai déjà dit, mais je vous vois encore à cet excellent article du Monde Diplomatique qui date de 2018, l'anthroposophie discrète multinationale de l'ésotérisme. Ce qui est bien, c'est que c'est long.
Le Monde Diplomatique, c'est des vrais articles de fond.
C'est long, donc c'est bien. On a un article de fond extrêmement intéressant, c'est écrit par Jean-Baptiste Mallet, c'est toujours en ligne, c'est consultable, et c'est un très bon moyen de se mettre dedans si vous avez un peu du temps.
Voilà, parce que l'anthroposophie avance de manière très pernicieuse hein, dans notre société.
Oui.
Voilà. Il va bientôt être l'heure de rendre l'antenne. On va vous souhaiter de passer de bonnes fêtes. On sera sûrement là la semaine prochaine.
Je vois pas qu'on serait pas là.
Ouais. C'est à moins qu'il y ait des confinements, tout ça, ce qu'il faudrait quand même peut-être. Mais bon, pour l'instant, le gouvernement n'écoute pas l'OMS. Donc on verra comment on sera disponible. Mais on essaiera d'être là. Il y a pas mal d'émissions qui restent encore, un peu moins que d'habitude. Mais sinon, de toute façon, il y a toujours les bandes continues de la plus rebelle des radios. En attendant que nous revenions tous bénévolement faire nos émissions.
On vous souhaite une bien bonne soirée à l'écoute des bandes musicales de la plus rebelle des radios. Et puis nous, faites votre vie, quoi.
Ouais.
Comme vous voulez.
Bye bye.
Ciao.
Ah, on tombe sur une fin de bande. Les bandes tournent en permanence et donc on a des surprises.
Hoje eu acordei danado com fogo no rabo. Eu quero me acabar, me acabar. Vou pra banda o som do brega. Eu quero ver o DJ tocar, DJ tocar. A garota já botou sainha da barraca. Então vou tacacar.